La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Lopez, je suis pasteur de l'église adventiste à Toulouse. C'est un plaisir pour moi de vous proposer cet après-midi un temps de réflexion biblique à partir d'un texte extrait de l'Évangile. Je vous invite, sinon à le lire avec moi, du moins à l'entendre. Il se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7, les cinq premiers versets. Il s'agit d'un extrait du sermon dit « Sur la montagne ». Jésus enseigne. Et il dit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Seigneur, que ta parole soit comme une lampe à nos pieds. Parle-nous. Ne jugez point, disait le texte. Vous vous en doutez, je voudrais parler d'un sujet délicat. Réfléchir à propos du jugement qu'il nous arrive bien souvent de prononcer sur les autres. Je partagerai avec vous quelques réflexions et nous ferons un tout petit parcours biblique autour d'un mot, d'un verbe, le verbe juger. Le verbe juger peut avoir, vous le savez, une connotation juridique. Juger, c'est, dit le dictionnaire, trancher un différend en qualité de juge ou d'arbitre. Mais vous pensez bien, ce n'est pas de cet aspect-là que je veux parler, non. Je veux parler de cette tendance si fréquente chez nous tous, qui consiste à porter un jugement hâtif sur telle personne, tel comportement, telle attitude, et cela souvent de façon radicale, définitive, impitoyable. Un tel ne s'exprime pas très bien, on pensera qu'il n'est pas très intelligent, idiot même. Un tel a laissé tomber un vase de fleurs, par exemple, ou renversé son verre à table, il est jugé de maladroit, d'empoté. Un tel ne m'a pas salué avec enthousiasme, aussitôt je le traite d'indifférent, froid et insensible. Celui-ci plaisante facilement avec les femmes, on le soupçonnera aussitôt peut-être d'infidélité. Et c'est ainsi que l'on va traiter un tel de ou penser d'un tel qu'il est ceci ou cela, et on dénigre, on condamne, on critique, on blâme. Pourquoi avons-nous tendance à juger de la sorte? Et quelles sont les conséquences d'un tel esprit de critique et de censure? Eh bien, j'ai trouvé une petite phrase qui répond parfaitement à ces deux questions. C'est Alexandre Westphal qui dit dans son dictionnaire encyclopédique de la Bible, à l'article « Juger », il dit ceci, je cite, « L'esprit de jugement, esprit de critique et de censure, est fait d'ignorance, d'orgueil et de jalousie. Il est donc injuste, dur pour autrui, implacable même, il se prononce sur l'apparence ou d'après des préjugés, Il sème le découragement, il dessèche le cœur, parfois même il devient violent et persécuteur. Il est l'ennemi le plus néfaste de la vie fraternelle et de la paix entre les hommes et dans l'Église. L'esprit de jugement, esprit de critique, effet d'ignorance, d'orgueil et de jalousie, dit-il, c'est bien vrai. Ignorance de la situation réelle, de celui ou celle que nous jugeons, de ses sentiments, des circonstances qui expliquent pourquoi il ou elle agit comme ceci ou comme cela. Et vous savez, si nous connaissons mal la situation de l'autre, c'est souvent parce que nous ne l'écoutons pas. Sommes-nous suffisamment à l'écoute de l'autre? Savons-nous écouter? Savons-nous nous taire devant l'autre, devant la situation de l'autre? Je ne le pense pas. D'ailleurs, souvent, après avoir crié peut-être sur quelqu'un, on lui dit « Ah, excuse-moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant », après l'avoir écouté précisément. Orgueil, parce qu'en critiquant, en jugeant l'autre, nous nous croyons meilleurs, supérieurs, alors que ce n'est pas forcément le cas, ni toujours le cas. L'orgueil. Ah oui, l'orgueil. L'orgueil est pour moi à la racine de tous les problèmes, de tous les maux. On se prend pour le centre du monde. On croit que notre façon de voir, de sentir les choses est forcément la bonne. Et du coup, donc, le point de vue de l'autre, eh bien, on ne le considère pas, on le condamne, on ne le comprend pas. Jalousie, oui, lorsque, pour prendre la place de l'autre, ou avantage sur l'autre, on le critique, on le rabaisse, on le dénigre. Et les conséquences, Alexandre Westphal disait, le jugement et la critique sèment le découragement, dessèchent le cœur, provoquent la violence et la persécution. La critique, dit-il encore, est l'ennemi le plus néfaste de la vie fraternelle et de la paix entre les hommes. Pas étonnant dès lors que Jésus ait dit expressément « Ne jugez point, ne jugez pas les autres ». On l'a lu tout à l'heure, donc dans l'Évangile selon Matthieu, le premier verset du chapitre 7. Jésus affirme là que nous n'avons pas le droit de formuler des appréciations impitoyables sur la personne de notre prochain. Il nous invite plutôt à nous juger nous-mêmes. Premièrement, c'est l'image très connue et ô combien parlante de la poutre et de la paille. Jésus fait ici la guerre à l'esprit de critique, de jugement et de censure que les apôtres, après lui, ont combattu eux aussi dans l'Église. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Romains et l'apôtre Jacques aussi. L'apôtre Paul dira, par exemple, « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Et toi, pourquoi méprises-tu ton frère ? Nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour être jugés par lui. Ainsi, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour soi-même. Et l'apôtre Jacques a dit, lui, « Frère, ne dites pas de mal les uns des autres. Dieu seul est juge. Pour qui te prends-tu, toi qui juges ton prochain ?» Selon ces textes que je viens de mentionner, pourquoi faut-il s'abstenir de juger, de condamner ? Eh bien, parce que Dieu seul est juge, juge suprême, seul juste, seul saint. Qui sommes-nous pour nous mettre à la place de Dieu ? Voilà la raison fondamentale pour laquelle il faut s'abstenir de condamner. Mais la Bible dit que si nous ne devons pas juger, c'est aussi parce que, par nature, nous ne voyons que partiellement. Nous jugeons d'après les apparences. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On peut lire cela dans l'Ancien Testament.
Santo, Santo, Santo. Oh.
Il ne faut point juger. Bon, d'accord. Mais n'empêche que les pensées, les actions, les comportements des hommes et des femmes sont souvent mauvais, n'est-il pas vrai? Faut-il se taire? Ne pas réagir? Devant ce qui nous semble mal et intolérable, devant ce qui nous heurte et nous blesse? Après tout, le christianisme se distingue bien par un certain côté moral, éthique. Il implique l'approbation ou la condamnation des actes selon qu'ils sont ou ne sont pas conformes à l'esprit de l'Évangile. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, je cite, « Examinez tout avec discernement, retenez ce qui est bon, tenez-vous à l'écart de toute espèce de mal. » Il dit cela dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5. Et quelques versets auparavant, il dit, au verset 14, très exactement, « Reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée. » Déjà dans l'Ancien Testament, le discernement du bien et du mal était une nécessité. Or, qui dit discernement du bien et du mal, dit forcément approbation et désapprobation, jugement donc. Remarquez que Jésus lui-même, dans ce chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu, dont nous avons lu tout à l'heure les cinq premiers versets, Jésus lui-même, donc, après avoir mis en garde contre l'esprit de jugement et de dénigrement, sous-entend qu'il faut pourtant identifier les coupables, les mauvais. Et les mots qu'il emploie sont très durs, pour ne pas dire plus. Il n'hésite pas à comparer certains à des chiens, ou à des porcs, ou à des faux prophètes, et à dire qu'on reconnaît à leurs fruits les mauvais arbres. Il y a là, à l'évidence, des jugements que Jésus prononce, pourtant après avoir condamné l'esprit de jugement. J'explique cela, prouve à mon avis que sa condamnation porte sur les jugements inspirés par un esprit malveillant et superficiel et ne concerne pas la nécessaire désapprobation de ce qui est mal et répréhensible. Ceci dit, si Jésus a, vous le voyez, émis sur certains de ses contemporains des jugements parfois sévères, je pense que son exemple n'est pas pour autant normatif pour nous. Lui, c'est sa perfection et sa connaissance du cœur humain qui l'autorisait à s'indigner sans erreur ni injustice possible. Je dis cela parce que je pense à un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les versets 15 et 16, où Jésus déclare « Vous jugez à la manière des hommes, moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Je veux dire donc que lui, c'est sa perfection et sa connaissance du cœur humain et sa relation au Père qui l'autorisait à s'indigner sans erreur ni injustice. Nous, ignorants et imparfaits, maladroits, nous devons sans doute désapprouver le mal énergiquement sous toutes ses formes, petites ou grandes, mais nous ne devons nous prononcer sur les personnes qu'avec beaucoup de bienveillance, amour et compréhension. Nous devons nous prononcer sur les personnes avec le même esprit de bienveillance que nous souhaitons pour nous-mêmes, en principe. C'est ce que Jésus recommande au verset 12, toujours de ce chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Jésus dit « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. » Sur ce sujet, écoutez cette très belle et très pertinente petite réflexion d'un pasteur suisse, Philippe Zeissig, qui disait donc dans une méditation matinale, dans un petit recueil, il écrivait ceci « J'aime entendre une personne parler d'elle-même, car alors on n'entend dire que du bien. » C'est vrai, de soi-même, on parle avec bienveillance, avec compréhension, avec amitié. Quand c'est moi qui ai commis une faute, je parle de moi en disant « Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais peut-être un peu fatigué, d'habitude rien ne m'échappe, je suis très attentif, mais cette fois et pour une fois, je n'ai pas vu. » Oui, c'est ainsi qu'on parle de soi-même. Mais maintenant, si une faute semblable a été commise par un autre, voici ce que cela donne. « Croyez-vous que ce gaillard saurait ouvrir les yeux? Mais non, rien. Bête, je vous dis, inutilisable. » De soi-même, on parle mieux. Non pas même qu'on se tienne pour parfait, mais si on ne l'est pas, on comprend pourquoi on ne l'est pas. On connaît les circonstances atténuantes. On sait qu'au fond, On souffre de cette situation. Ce n'est même pas qu'on se trouve des excuses, on prend simplement la peine d'examiner s'il y en a, et il y en a souvent. Pour tout dire, on parle de soi avec un peu d'amour, et c'est ça qui tourne les choses en bien. Ce qui est regrettable, c'est juste qu'on oublie la tellement simple parole de Jésus, et les autres aussi, tu les aimeras, comme toi-même, justement.
Tu as voulu des enfants unis, qu'il en soit ainsi. Un jardin de paix pour ta famille, qu'il en soit ainsi. Et nous voilà tous ensemble, prêts à faire ta volonté. S'il est vrai qu'on te ressemble, donne-nous ta sainteté.
Tu as voulu tes enfants heureux,
qu'il en soit ainsi.
Un amour sincère au fond des yeux,
qu'il en soit ainsi. Nous ne sommes pas capables, donne-nous de nous aimer. Que nos vies soient acceptables, selon tes desseins parfaits. Et nous aurons enfin ce temple, ce palais où tu demeures, où ton cœur de père nous comble de sa grâce. Nous serons enfin l'épouse que ton amour a choisi, le parfum de ta vie, qu'il en soit ainsi. Tu as voulu ton trône établi, qu'il en soit ainsi, et ton règne sur tout le pays. Qu'il en soit ainsi, nous irons dans ta confiance, enflammés de ton esprit, proclamés dans ta puissance, le salut de Jésus-Christ. Et nous serons enfin ce temple, ce palais du demeure, où ton cœur de père nous compte.
J'aimerais revenir un instant sur le verset de l'Évangile selon Jean que j'ai mentionné il y a 2 minutes. Avez-vous remarqué ce que Jésus disait dans ce texte? Le texte de Jean, chapitre 8, verset 15. Jésus dit « Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Vous jugez à la manière des hommes. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre manière de juger? Eh bien, on l'a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Nous jugeons superficiellement, souvent des peccadilles, des mesquineries. Et puis, nous ne sommes pas toujours animés du bon esprit, du Saint-Esprit. Nous n'avons pas le Père avec nous. Pas étonnant dès lors qu'on manque d'amour, car le Père, Dieu, est amour. Dieu aime les pécheurs. Oui, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde, lit-on dans Jean chapitre 13, verset 17, pour juger ou condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu aime les pécheurs, figurez-vous. Dieu aime tous ceux, et ils sont nombreux, très nombreux, qui font des bêtises. Dieu aime ceux qui se trompent ou qui trompent. Dieu aime ceux que nous jugeons de paresseux, incompétents, bavards ou je ne sais quoi d'autre. Dieu nous aime. Il ne nous condamne pas à la légère, arbitrairement, impitoyablement. Il sait que nous pouvons changer. Il sait que nous pouvons abandonner tel ou tel défaut ou péché qui est en nous. Il voudrait que nous changions, que nous corrigions tel ou tel travers qui fait souvent l'objet de critiques et blâmes. Et il le voudrait car Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Voilà une distinction très importante à faire. Dans nos jugements, il me semble qu'il faut aussi distinguer les personnes et les actes. Il ne faut pas condamner définitivement les personnes, il faut par contre désapprouver, on l'a dit, avec tact, les mauvais comportements. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs clairement, l'apôtre Paul dit « Discernez ce qui plaît au Seigneur, mais ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, dénoncez-les plutôt ». L'apôtre Paul dit cela dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 5. Cela dit, il ne suffit pas de discerner et de désapprouver. Dans l'Évangile, il est dit, Évangile selon Luc chapitre 6, « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. » Il faut aussi, et peut-être surtout, donc pardonner, c'est-à-dire donner à l'autre toujours et encore une autre chance, ne jamais enfermer qui que ce soit dans son erreur, dans son attitude. Celui qui a menti, par exemple, n'est pas automatiquement un menteur. Celui qui arrive en retard n'est pas forcément toujours en retard. Attention donc à ne pas coller une étiquette définitive sur l'autre. Oui, pardonnons. Donnons à nouveau tout notre crédit à l'autre.
Chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain, pour chaque fois que l'on se couche sur la colère.
Pour terminer et résumer, comment lutter contre l'esprit de critique et la tendance à juger autrui? Retenez trois choses, trois conseils. Faire preuve d'humilité, se souvenir de nos propres fautes. Se garder de juger sur l'apparence, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. On lit cela encore dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7. Et puis, se souvenir du commandement du Christ qui dit « Aimez-vous les uns les autres ». Or l'amour, comme le dit l'apôtre Paul dans ce très beau chapitre 13 de sa première lettre aux Corinthiens, vous connaissez ce passage assurément, l'amour prend patience, ne jalouse pas, ne s'irrite pas, excuse tout, supporte tout. Eh bien, que Dieu nous aide à vivre cela. En guise d'exhortation finale, permettez-moi de lire ces quelques phrases de l'apôtre Paul. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Telle est ma prière aussi, pour nous tous.
Pardon.